les podcasts de Vatican News.
Avec 8% de croissance annuelle en 2017, le Rwanda est en pleine santé économique. Depuis quelques années, le gouvernement de Paul Kagame a tenté de désenclaver son petit pays en investissant en masse dans les projets agricoles. Au Rwanda, 70% de la population vit encore de la terre. Depuis quelques années, des milliers de coopératives sont nées un peu partout dans le pays pour développer la culture du maïs, des patates douces ou encore du haricot, et surtout permettre aux petits agriculteurs d'écouler leurs produits sur le marché national et parfois même régional. Mais malgré ces succès, le Rwanda est encore un pays pauvre, classé 159e sur 188 par le dernier indice de développement humain du PNUD en 2016. Le pays doit relever de grands défis en termes de nutrition, alors que la pression foncière sur les sols est très forte et que le pays est frappé aussi par les changements climatiques. Le Rwanda est un pays qui néanmoins revient de très loin, c'est ce que nous rappelle Yann Bostels, il est chargé des relations extérieures et de la communication du programme alimentaire mondial à Kigali.
Le pays est venu de très très loin, avait commencé de zéro en quelque sorte après la génocide de 1994, a fait d'énormes avancées sur tous les plans, mais malheureusement en fait tout ce qui est sécurité alimentaire est un peu traîné. Il y a eu énormément de focus sur l'économie. L'économie à proprement parler, peut-être moins sur le développement agricole. En fait, cet effet était exacerbé par une démographie galopante, avec le résultat que le Rwanda est parmi les pays, si pas le pays africain le plus dense d'un point de vue population, avec un découpage des terrains arables qui frôle l'imagination en fait en quelque sorte, parce qu'en fait normalement au niveau du PAM on dit toujours qu'on a besoin d'environ un hectare pour survivre avec ce qu'on récolte sur son propre terrain. Un hectare par famille, ici c'est pas le cas, c'est nettement moins, on a même entendu des chiffres de 0,3-0,4 hectares par famille, donc ce n'est pas assez pour subsister. Ce qui explique aussi ces problèmes au niveau sécurité alimentaire et ces problèmes de malnutrition qui en découlent. Pour vous donner une idée, en fait, la malnutrition ici au pays a diminué grâce aux efforts des gouvernements et aux efforts des agences des Nations Unies basées à Rome. Ça a chuté quand même d'environ 10% en quelques années. Mais malgré tout, ça reste au niveau de 38% pour ce qui concerne le stunting. Stunting, c'est qu'on est trop petit pour son âge.
Et ça touche les enfants. On a vu qu'il y avait énormément d'enfants. Il y a un taux de natalité très fort. Et du coup, il y a un vrai problème de malnutrition en dessous de 5 ans, c'est ça?
La limite, c'est 2 ans. Nous, on parle des 1000 jours. En fait, les 1000 jours sont vraiment cruciaux. Et ça va de la conception de l'enfant jusqu'à son 2e anniversaire. Et s'il y a un problème de malnutrition pendant ce temps-là, l'enfant est stunted et malnutri, et ça a un effet pour sa vie.
Le Rwanda est un pays qui n'est pas très enclavé parce que c'est petit et les routes sont quand même assez bonnes, on l'a vu. Donc ce n'est pas forcément l'enjeu, mais il est aussi dans la difficulté de développer des terres toutes petites. Ça aussi, on en a parlé. Il y a aussi les phénomènes de changement climatique, l'érosion. Mm-hmm. Ça, c'est un vrai défi aussi pour vous?
Absolument. Donc on a les deux extrêmes des forces de la nature. Tout d'abord, ce qu'on vient de vivre, c'est une saison de pluie anormale, complètement anormale, avec des pluies continues. Normalement, en fait, quand ça pleut ici, c'est 1 heure, 2 heures maximum, généralement à des heures fixes. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis quelques saisons de pluie déjà. La saison de pluie qui vient d'écouler, il y a eu 200 fatalités, dont quelques 16 personnes dans une église qui étaient atteintes par la foudre. Donc ça, c'est l'une extrême. Il y a de l'autre côté, il y a la sécheresse. Et la sécheresse, le pays a été gravement affecté aussi pendant ces deux voire trois dernières années aussi. Et c'est un effet d'El Niño. Donc le phénomène qui trouve ses origines en Amérique latine, malheureusement, on le retrouve un peu partout dans le monde, avec des saisons de pluie et des saisons sèches décalées, voire allongées et plus soutenues. Là, c'est plutôt l'est du pays qui en a beaucoup souffert, qui est le grenier du Rwanda. Et pour le coup, bien sûr, les récoltes étaient gravement affectées par cela. On a eu quelques cas de... Enfin, j'ai parlé dernièrement avec un fermier assez riche, un Américain, qui avait investi dans les cacahuètes. Mais rien que pour vous dire, en fait, un fermier américain avec des moyens, même lui, il ne récoltait pas les 10 tonnes de cacahuètes qu'il normalement il a. Il m'a dit qu'il n'avait que 50 kilos.
Le World Food Programme doit faire face à la crise des réfugiés. Vous êtes dans la gestion de crise, qui est aussi une des caractéristiques du PAM, mais vous êtes moins dans le développement à long terme, dans l'accompagnement. Comment vous arrivez à faire les deux à la fois?
Mais on a un double mandat, donc de l'humanitaire et faire du développement. On parvient maintenant aussi, et on œuvre maintenant à faire la connexion entre l'humanitaire et le développement. Faire en sorte que, par exemple, en fait, que les réfugiés puissent être démissionnés de l'assistance humanitaire et qu'ils peuvent créer leur propre livelihoods, leur propre résilience, en fait. Mais pour revenir sur votre question, c'est un grand défi. Le PAM a certainement les moyens, l'expertise, l'expérience dans la gestion des crises, tout autant qu'on a l'expérience dans la gestion de développement, en fait. Mais ce qui est le grand défi pour le PAM, c'est que nous sommes une organisation à financement volontaire. Contrairement à certaines autres agences des Nations Unies qui ont un budget noyau, donc en fait il y a un membership fee à payer par tous les États membres en fait sur une base annuelle, ce n'est pas le cas pour le PAM. Donc chaque intervention qu'on aimerait faire sur le terrain doit être financée. Et c'est là où se trouve le grand défi actuellement, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Pas parce que les États membres donnent moins, au contraire, ils commencent à donner plus, mais jamais on a eu autant de crises dans le monde qu'aujourd'hui. Jamais on a eu autant de réfugiés qu'aujourd'hui. Et donc nous, en fait, si je peux parler de notre opération ici au Rwanda, nous on est un petit pays avec quand même la moitié des réfugiés dans les camps qui sont des réfugiés congolais qui proviennent d'une crise qui a trouvé ses origines il y a 20 ans. Beaucoup de Congolais, en fait, ils sont déjà depuis 20 ans. Et malheureusement pour nous, la communauté internationale a largement oublié cette crise. Pourtant, les besoins restent les mêmes. Pourtant, il faut qu'on puisse respecter notre obligation de pouvoir nourrir ces gens, en fait, de garantir qu'ils ont un état nutritionnel qui soit correct. Et on essaie, et pour revenir sur notre transition de l'humanitaire vers le développement, on essaye tant bien que mal de trouver des options pour les réfugiés, de graduer de l'assistance, de trouver des moyens de subsistance, de s'autonomiser en fait en quelque sorte. Mais c'est très difficile vu le contexte Rwanda. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement, bien au contraire. Ils sont très accueillants, ils sont très accommodants, mais c'est à cause de la pression démographique qui est déjà sur le pays. Dans un pays comme l'Ouganda, juste à côté, il y a une dépendance de l'aide humanitaire de 50%, moins de 50% même. Pourquoi ? Parce que l'Ouganda, le gouvernement de l'Ouganda, a pu octroyer 1 hectare de terrain à chaque famille de réfugiés. Donc ils pouvaient automatiquement déjà subvenir à leurs besoins alimentaires. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de terre. Il n'y a plus de terre. Et donc, ce qui fait que la dépendance sur l'aide humanitaire, même pour les Congolais qui restent ici depuis plus que 20 ans, est au-delà de 90%, 90%.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.